s'il y a cette possibilité, de prendre le temps de méditer, parfois même d'étudier la parole de Dieu, parce que, comme l'a dit Tony à l'instant, elle nous purifie, elle nous sanctifie, elle nous permet de mieux connaître notre Seigneur et de nous rapprocher de lui, eh bien, maintes et maintes fois, lorsque nous lisons sa parole. Le Saint-Esprit veut être pour nous un guide sûr. J'espère que nous le croyons. Si nous sommes chrétiens, c'est quelque chose de normal de le croire par la foi. Voilà ce que je vous propose, eh bien, de méditer ensemble ce matin. Alors, comme vous le savez, cela fait 15 jours maintenant que la Pentecôte est derrière nous. Alors, nous l'avons fêté et rappelé lorsque nous étions réunis ici, que eh bien, nous fêtions finalement l'anniversaire de la venue du Saint-Esprit dans notre monde pour demeurer éternellement dans le cœur des croyants. Ben, j'ai trouvé ce matin, et dans ma pensée durant cette semaine, qu'il était eh bien, normal que, à 15 jours près, eh bien, je puisse continuer à en parler du Saint-Esprit. Et je sais que Tony, on a fait donc un sujet de méditation et d'étude, et cela depuis longtemps, pour nos réunions le mercredi soir. Et j'aimerais que l'on regarde de plus près ce que, eh bien, on va tenter de résumer ensemble ce matin. Et j'aimerais que l'on prenne ensemble un premier texte dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 16. Parler du Saint-Esprit, oui, pas pour que nous l'adorions, non pas pour que nous le glorifions, et d'ailleurs, Dieu ne le veut pas. Quand bien même, ce serait une des personnes de la Trinité. Et cela, nous allons le voir dans ce passage, que Dieu ne veut pas que le Saint-Esprit se glorifie. Parfois, dans nos chants, peut-être l'avez-vous remarqué, il y a des erreurs. Il y a des erreurs. Je ne sais pas si elles sont volontaires ou pas, inconscientes ou non, mais parfois il est question de glorifier le Saint-Esprit. Non, non. Au grand jamais, vous trouverez cela dans la parole de Dieu. Et j'aimerais que l'on regarde donc dans l'évangile de Jean au chapitre 16, versets 13 et 14, ce que la Bible nous rappelle sur la fonction principale du Saint-Esprit. Et on va essayer de développer ça. Donc Jean 16, versets 13 et 14. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. » C'est Jésus qui parle. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Verset 14. Le Saint-Esprit glorifiera le Seigneur. Une de ses fonctions, une de ses tâches, une autre tâche nous est révélée au verset 13. C'est celle de conduire les croyants dans lesquels ils demeurent éternellement pour les conduire dans toute la vérité. Et quand il est question pour le Saint-Esprit de conduire les croyants dans la vérité, dans toute la vérité, il s'agit en priorité de nous conduire donc à Jésus. Car il est lui-même la vérité. Et donc, nous pouvons faire cette association d'idées, et c'est pertinent de le faire, Car à d'autres endroits, il est dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, lorsque le Consolateur, le Saint-Esprit, il est dit de lui qu'il veut nous conduire dans toute la vérité, c'est-à-dire qu'il veut nous conduire à Jésus et glorifier ainsi le Seigneur Jésus-Christ. Derrière ce mot « conduire » ou « guider », derrière ce vocable que nous trouvons à différents endroits de l'Évangile, eh bien, il y a deux autres termes simples qui peuvent être employés pour décrire la mission du Saint-Esprit. Ça va peut-être nous permettre de, il me semble, de mieux comprendre ce que nous dit la parole de Dieu. En tout cas, moi, ça m'a aidé à mieux comprendre. Il s'agit des mots « parler » et « agir » et qui résument donc la mission du Saint-Esprit de vouloir donc conduire les enfants de Dieu qui l'habitent dans les cœurs pour les conduire à Jésus. Donc « parler » et « agir » comme le ferait d'ailleurs une personne, n'est-ce pas, une personne faite de chair et d'os. Et d'ailleurs, eh bien, il nous faut raisonnablement et pertinemment eh bien dire que effectivement le Saint-Esprit est une des personnes de Dieu, du Dieu trinitaire. Parce que il agit et d'une manière générale, il nous conduit. Comme le ferait une personne. Et en effet, dans toute la parole de Dieu, et en particulier dans le Nouveau Testament, il est question de cela, du fait que le Saint-Esprit parle et le Saint-Esprit agit. Est-ce que nous en sommes toujours conscients? Pas sûr. Mais c'est ce que la parole de Dieu, la Bible veut nous rappeler, que constamment, parce que sinon, eh bien, nous serions livrés à notre propre chair pour continuer eh bien, à pécher comme avant, si le Saint-Esprit n'était pas là pour nous conduire. Et si donc Dieu, le Saint-Esprit, a parlé, et parle encore aujourd'hui, alors, frères et sœurs, mes amis, il nous faut l'écouter attentivement. Et de la même manière, si Dieu le Saint-Esprit agit et agit encore aujourd'hui, nous le croyons, n'est-ce pas? Alors, il nous faut lui faire confiance et nous soumettre à lui pour lui permettre, eh bien, de conduire nos vies comme il l'entend. Pour que, à travers nous, le verset 14 que nous venons de lire puisse glorifier le Seigneur et qu'ainsi nos vies puissent glorifier le Seigneur par le Saint-Esprit qui vit en nous. Parler et agir, s'agissant de l'homme pécheur que je suis, ou que vous êtes, c'est quelque chose qui très souvent sonne mal, parce qu'on peut parler et agir différemment. L'homme reste un homme pécheur. Mais quand il s'agit du Saint-Esprit, parler et agir forment un tout harmonieux. Ce que le Saint-Esprit dit lorsqu'il parle, eh bien, il le fait également. Comme le Seigneur Jésus a pu le faire les choses parce qu'il l'avait dit. Et quand il dit, il fait. De la même façon, le Saint-Esprit, lorsqu'il dit, lorsqu'il parle, il agit également de manière parfaite et harmonieuse. Alors, j'ai pensé que pour mieux comprendre la portée de l'un et de l'autre, c'est-à-dire le fait de parler et le fait de agir, eh bien, je me propose de les dissocier, hein, les deux, pour mieux comprendre en fait chacun de ces deux aspects, et puis de les relier aussi à des exemples pris dans la parole de Dieu, et puis après charge à chacun de nous d'appliquer cela dans sa vie personnelle et également dans sa vie d'église. le Saint-Esprit parle tout d'abord. Alors, j'aimerais regarder avec vous, peut-être dire avant que le Saint-Esprit peut parler à différents endroits, de plusieurs façons et de manière constante. Mais j'aimerais regarder avec vous cinq circonstances particulières, cinq, et nous ferons pareil avec la manière dont le Saint-Esprit agit, mais on commence par le Saint-Esprit parle, cinq circonstances particulières où le Saint-Esprit nous parle. Première circonstance, le Saint-Esprit parle au tout début de la vie chrétienne. Et ça, c'est quelque chose d'important, de savoir que dès le début de la vie chrétienne, et même parfois, je dirais, un peu avant, car le Saint-Esprit peut travailler dans le cœur sans que la personne soit encore à Christ. Nous l'avons vu avec Corneille, on peut le voir avec d'autres personnages bibliques. Eh bien, le Saint-Esprit parle au début de la vie chrétienne. Il est le point de départ de toute vie nouvelle en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, on est dans Jean 16, on reste dans Jean 16, et je vous propose de lire les versets 7 à 11. Versets 7 à 11 du même chapitre. Cependant, je vous dis la vérité, c'est Jésus qui parle. Il est avantageux, il vous est avantageux, que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu dont nous avons besoin pour éclairer notre conscience sur notre état de pécheur. Et plus en être conscient est une chose, mais également nous éclairer pour que nous comprenions que finalement, parce que je suis éclairé sur mon état de pécheur qui me condamne devant le Dieu Saint, eh bien, je comprends également par l'Esprit que j'ai besoin du Seigneur pour être sauvé de cette condamnation. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui me le révèle. Oui, le Saint-Esprit parle au tout début de la vie chrétienne pour me convaincre de péché, pour me convaincre de justice, de manière à ce que je me voie pécheur et sale devant Dieu, et qu'ainsi je comprenne mon besoin de connaître Jésus-Christ et de le recevoir dans mon cœur, dans la repentance et dans la foi. Le Saint-Esprit me parle de cette façon. Et je peux dire que, aussi compétente et persuasive que peut l'être une personne pour parler de Jésus-Christ à une autre personne, pour lui parler du Seigneur, bien sûr. Mais c'est toujours l'Esprit Saint qui convainc de péché, qui convainc de justice et qui parle à la conscience et au cœur de la personne. Nous ne sommes en tant que croyants, si nous apportons la parole de Dieu à quelqu'un, que des outils pour le Seigneur, pour que sa volonté se fasse pour sauver des personnes qui ne le connaissent pas encore à travers nous. Et par le Saint-Esprit, toujours, c'est lui qui travaille. Et aujourd'hui, les amis, je ne connais peut-être pas tous, aujourd'hui est le jour du salut. Si vous entendez sa voix, parce que l'Esprit parle, l'Esprit de Jésus parle, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, nous dit la parole de Dieu. Pourquoi ? Mais pour être sauvé de cette condamnation éternelle, que tout le monde subira, s'il n'est pas à Christ. C'est terrible. Deuxièmement, deuxième circonstance particulière où le Saint-Esprit parle, il parle aussi quand des choix de vie particuliers et importants se présentent dans la vie. C'était le cas de Barnabas et Saul. Prenons ensemble Acte 13. Il y a des choix de vie qui vont se présenter à un moment donné, des choix importants. des choix cruciaux, des choix particuliers. Et ça peut nous arriver aussi, frères et sœurs, mes amis, eh bien, dans notre parcours de vie, eh bien, d'arriver et de voir des choix se présenter à nous importants. Et on voit que le récit du début de la mission de Saul et Barnabas, eh bien, se voit dès les premiers versets de Acte 13, et je vous propose de lire ces premiers versets. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Tous des personnes de qualité, si j'ose dire. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. On pourrait s'attarder longtemps sur ces premiers versets qui nous montrent beaucoup de choses. Qui a parlé ? Serait-ce les prophètes dont les noms nous sont cités ici ? Serait-ce les docteurs dont nous voyons les noms ? Des gens sérieux, des gens de qualité et ils auraient pu parler. Mais ils ne l'ont pas fait, frères et sœurs. Ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la place ? Ils ont servi d'une certaine manière, on va y revenir. Ils ont jeûné. Et les conditions étaient donc réunies pour que le Saint-Esprit puisse leur parler d'une manière claire et distincte. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, le Saint-Esprit parle quand des choix de vie importants, cruciaux, se présentent aux croyants. Et on en a un exemple ici. Et donc, frères et sœurs, charge à nous, eh bien, dans nos vies respectives, de voir quelles seraient les circonstances particulières qui sont les miennes, qui sont les vôtres, où le Seigneur peut me parler dans ces circonstances-là, mais lorsque les mêmes conditions sont remplies. En effet, le Saint-Esprit a pu remplir sa fonction, sa mission de conduire d'une manière merveilleuse et leur communiquer donc à tous avec clarté sa volonté, la volonté de Dieu, qui il avait choisi pour effectuer ce premier voyage missionnaire. Oui. Et comment cela a pu se faire? Comment ont-ils pu entendre la voix du Saint-Esprit de manière claire et distincte? Le début du verset 2 nous donne la réponse. C'est vraiment éloquent. Et je suis toujours, quand je relis ces passages, émerveillé de voir comment la parole de Dieu, de manière simple, décrit les choses. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Et c'est seulement après que l'Esprit Saint a parlé. Ce n'était pas dans un brouhaha incompréhensible. Ce n'était pas dans des endroits où il y avait du bruit. Peut-être même où des louanges étaient dites avec force, non. Il y avait là des hommes, des femmes qui étaient rassemblés dans une position humble, au service de Dieu. Il y avait là une attitude qu'on oublie souvent et que l'on voit de moins en moins, même et de moins en moins chez les chrétiens. Parce qu'il faut que ça bouge. Parce que il faut que il y ait une forme de vie pour montrer que, je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais il y avait là une attitude, pas d'exigence, mais une attitude d'écoute et d'attente en communion paisible et profonde avec leur Dieu, au point qu'ils ont trouvé utile même de jeûner ensemble. Oui, le Saint-Esprit parle, entre autres dans les grands changements de vie qui se présentent, où il nous faut discerner eh bien, la parole de Dieu, où il nous faut discerner la volonté de Dieu, et non faire notre propre volonté pour notre propre intérêt. Donc, frères et sœurs, mes amis, prenons exemple sur ces chrétiens qui se réunissaient dans cette attitude humble au service de Dieu et même dans le jeûne. Et l'Esprit Saint a pu parler. Peut-être le Saint-Esprit peut nous parler lors de choix importants dans nos vies, que ce soit pour nos études. Quel choix, Seigneur ? Que ce soit pour trouver un métier qui soit digne du Seigneur. Il y en a qui ne le sont pas. Il faut le dire. Qui ne sont pas compatibles avec le service pour Dieu. Serait-ce pour trouver un futur conjoint ? Il me faut, me rapprocher de Dieu, écouter la parole de Dieu, écouter le Saint-Esprit me parler, Saint-Esprit qui s'appuie toujours sur les vérités de la parole de Dieu pour parler. Serait-ce également pour trouver une église ? Oui, Dieu peut me conduire. Serait-ce aussi même pour me montrer si Dieu ne veut pas que je m'engage d'une manière particulière avec lui pour le servir également. Ces choix de vie qui sont importants, qui sont cruciaux, ne les prenons pas d'une manière détachée, mais recherchons la volonté de Dieu, comme Barnabas, Saul et tous ses frères se sont mis ensemble pour la rechercher. Et donc, mes amis, nos études bibliques, nos réunions de prière sont là pour cela. Pour que dans la communion fraternelle, nous puissions aussi, à travers la parole de Dieu, mieux la comprendre et ainsi, dans nos vies personnelles et dans nos vies d'église, trouver, comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. Troisièmement, circonstances particulières, le Saint-Esprit parle pour nous éclairer sur les grandes réflexions de la vie. Ouais, il y en a énormément. Et par exemple, vous connaissez le passage d'Acte 15, où il est question de difficultés qu'a l'Église à ce moment-là, parce qu'il y avait des croyants d'origine juive, des croyants d'origine non-juive qui avaient une culture différente, une manière de penser différente. Et en particulier, ils ne pensaient pas la même chose sur les conditions à remplir pour être sauvés. Les uns voulaient imposer aux autres l'application de la loi mosaïque. Et, c'est difficile ça. Et il est question, regardez avec moi dans Acte 15, la réponse merveilleuse du Saint-Esprit. Versets 28 et 29. Et le Saint-Esprit a parlé. C'était un sujet de réflexion important. Et il est dit au verset 28, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de nous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche, chose contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir garde. Voilà, l'Esprit Saint avait parlé. Alors, je ne rentre pas dans les détails, c'est pour le principe qui est derrière. Ils étaient à l'écoute de Dieu. Ils se sont mis ensemble. Ils ont regardez de près ce que disait la parole de Dieu avec un désir et une ferveur qui leur a permis de comprendre et d'entendre la voix du Saint-Esprit leur parler à ce moment-là et qu'il y ait donc une solution qui soit trouvée à la gloire de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, il y a des sujets qui sont difficiles dans la vie, c'est vrai. Alors, il y a peut-être dans la vie des parcours qui sont différents, certainement. Et les choses ne sont pas toujours simples. Mais la parole de Dieu nous montre qu'il est indispensable d'écouter le Saint-Esprit nous parler à travers la parole de Dieu et donc de prier pour chercher et trouver sa direction pour nos vies. Que dois-je faire si ma situation est problématique et que il n'y a que le divorce qui peut être une solution? N'y a-t-il pas là, dans ces circonstances-là difficiles, le besoin que je recherche la volonté de Dieu? Voilà des situations de réflexion qui peuvent être difficiles. Et tellement d'autres. Quatrième circonstance, le Saint-Esprit nous parle lorsque nous traversons des périodes difficiles. Et en particulier des périodes difficiles liées à notre foi. Mais on peut le prendre d'une manière générale. Et Actes chapitre 20, on est toujours dans les actes. Regardons trois versets. Acte 20, c'était le cas de l'apôtre Paul. Et il veut nous encourager à travers ces quelques mots. Acte chapitre 20, versets 22 à 24. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, il est lié par l'Esprit. Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Il l'a averti, il lui a donc parlé. Oui. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Comment sait-il tout ça? Eh bien, parce que le Dieu, à travers le Saint-Esprit qui est en lui, eh bien, lui a parlé. Il était dans une disposition, une attitude de cœur qui a permis donc au Saint-Esprit de lui parler. Il a aussi permis que Paul ait cette attitude, oui, d'humilité, de soumission, sans laquelle on ne peut pas entendre la voix de Dieu nous parler. C'est pas possible. Si le Saint-Esprit donc l'a encouragé dans ces moments difficiles, dans cette période difficile, il veut aussi faire de même avec nous, ses enfants. Il y a des épreuves, hein. Il y a des difficultés dans la vie, et en particulier lorsque nous souffrons à cause de notre foi. Mais il y a des épreuves telles que la maladie, il y a des souffrances qui sont particulières, qui sont propres aux uns et aux autres. Et nous devons nous encourager et prier les uns pour les autres. Mais la parole de Dieu là nous encourage, frères et sœurs, à tenir bon par la foi, parce que Dieu est en nous et, comme on va le voir, il agit également en nous, par le Saint-Esprit. Enfin, le Saint-Esprit parle pour nous faire connaître le Fils, et de mieux en mieux, pour que nous parvenions progressivement à lui ressembler. Alors, je ne vais pas prendre un passage, mais tout le Nouveau Testament en parle, vous le savez. Puisque le Saint-Esprit parle en tout temps, en toutes circonstances, utilisant constamment la parole de Dieu. Et donc, il est nécessaire pour nous de l'écouter, pour l'entendre nous parler à travers la parole. Ensuite, le Saint-Esprit agit. Et j'aimerais aussi prendre cinq circonstances particulières où le Saint-Esprit agit. On va aller plus vite. Il y a plein de manières, n'est-ce pas? Et en tout temps, c'est comme le fait de parler. Mais on peut prendre quelques circonstances particulières. Regardez avec moi Acte 9, verset 31. Acte 9, verset 31. Et là aussi, comme pour parler, le Seigneur agit au début, eh bien, de la vie chrétienne. Acte 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. On voit là l'assistance du Saint-Esprit, c'est donc que le Saint-Esprit agissait, mais pas n'importe comment. Il y a une condition, regardez. C'est que l'Église s'édifiait et marchait dans la crainte. Est-ce que c'est notre cas, frères et sœurs? Est-ce que nous nous édifions en Christ, dans la communion des saints? Est-ce que nous sommes dans la crainte du Seigneur? Si ce n'est pas le cas, ne nous attendons pas à ce que le Saint-Esprit agisse pour que l'Église croisse. Mais l'Église va croître par son assistance dès l'instant où certaines conditions sont remplies. Et là, c'est un encouragement à être vigilant, frères et sœurs, par rapport à chaque à notre vie personnelle, à notre vie d'Église. Les uns et les autres s'édifiaient mutuellement. Ils étaient dans la crainte du Seigneur, dans le bon sens du terme, hein, n'est-ce pas? Et là, Dieu bénit son Église. Et là, Dieu, à travers le Saint-Esprit, a agi pour la faire grandir. Quelle bénédiction on voit ici. Dieu veut bénir son Église. Écoutons, regardons ce que nous dit la parole de Dieu. Quelles étaient l'attitude des frères de la première Église? Prenons exemple sur eux. Le Saint-Esprit agit aussi parce que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Et donc, il veut agir pour nous modeler, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est important de le savoir. Dieu veut agir dans nos cœurs pour notre sanctification, pour que nous nous rapprochions de l'exemple de Christ. Le Saint-Esprit agit en nous en tout temps, avec puissance, pour nous faire avancer avec lui. Et puis, troisième circonstance, le Saint-Esprit agit en nous pour nous aider à prier. Ah, parfois nous sommes hésitants, même durant le service du culte. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous le dit, à plusieurs endroits, nous aide, donc agit en nous pour nous aider à prier si nous sommes hésitants. C'est quelque chose quand même. Jude, chapitre 1, nous le rappelle, je vous le cite. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Et puis Romains 8, 26 nous précise que c'est le Saint-Esprit qui vient en aide à notre esprit pour que nous puissions nous adresser au Seigneur. C'est pas beau ça? Dans la tendresse de Dieu, le Seigneur à travers le Saint-Esprit nous vient en aide pour que nous puissions adresser nos prières à la gloire de Dieu. Aussi, j'ai relevé une quatrième circonstance particulière, c'est que le Saint-Esprit, parfois, eh bien, dans notre marche, nous stoppe. Ah ! Et parfois, nous sommes inconscients ou conscients, mais souvent inconscients de cela. Dans notre marche, parce que, eh bien, nous avançons pas comme il faut. Nous avons décidé, fait des choix qui ne sont pas forcément ceux que Dieu aurait fait à notre place. Parfois, ces choix sont faits de bonnes intentions. Il n'y a pas toujours de mauvaises intentions. Mais malgré les bonnes intentions, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Et donc, dans sa liberté et sa sagesse, le Saint-Esprit peut nous stopper aussi dans notre marche. Ça a été le cas de Saul, de Paul. Alors, vous connaissez peut-être cette histoire. Alors, c'est dans Acte 16, versets 6 et 7. Vous le lirez. C'est édifiant pour nous de voir la tendresse de Dieu à notre égard. Nous qui, parfois, eh bien, nous écartons de la volonté de Dieu, Dieu veut nous redresser avec tendresse. Et peut-être au détour d'un verset biblique, d'un passage que nous avons lu, peut-être médité avec des frères et des sœurs, il va nous rappeler, et le Saint-Esprit l'attestant dans nos cœurs, que là, Jérôme, tu fais fausse route. Là, ça va pas. Il faut que tu reviennes à moi. Et ça m'est arrivé bien des fois, frères et sœurs. Je pense que peut-être pour vous, c'est aussi la même chose. Enfin, le Saint-Esprit agit. C'est peut-être le plus important, je ne sais pas. En produisant ses fruits dans nos cœurs, comme son amour en premier lieu. Et là, il y a beaucoup de passages dans la parole de Dieu qui nous dit que le Saint-Esprit agit dans nos cœurs pour produire ses fruits en nous qui glorifient Dieu. Ça aussi, Romains 5, 5, l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 14, 16, 17, le Saint-Esprit qui produit la justice, la paix et la joie. Et que dire de Galates 5, 22 qui nous cite 9 fruits de l'Esprit, les uns à la suite des autres, en commençant par l'amour de Dieu, qui reprend finalement, qui résume tout le reste. Eh bien, le Saint-Esprit veut agir en produisant des fruits, comme il l'a fait pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous pourrez lire ça dans Luc chapitre 10, verset 21. Oui, le Saint-Esprit veut être mon guide, parce qu'il me parle et il veut agir dans mon cœur. Permettez-moi, pour terminer, de faire une petite mise en garde. Prenons ensemble Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Ce n'est pas ma mise en garde, c'est la mise en garde de la parole. N'attristez pas le Saint-Esprit. Vous voyez que c'est une personne. Vous voyez qu'il est touché lorsqu'on l'attriste. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comment pouvons-nous attrister le Saint-Esprit ? Un autre passage nous dit même l'éteindre. Eh bien, si on se réfère à tout ce que l'on vient de dire, simplement en refusant de l'écouter. D'une part, alors qu'il veut me parler. C'est en refusant de me soumettre à lui, alors qu'il veut agir en moi. Alors, là oui, dans cette attitude qui est le contraire de l'attitude que nous avons vue chez ses frères et sœurs, dans la parole de Dieu, alors là, je vais, oui, à coup sûr, attrister le Saint-Esprit de Dieu. Et si nous avons conscience que nous l'avons attristé alors, par une attitude coupable envers Dieu et même parfois envers un frère ou envers les frères, alors revenons à Christ, dénonçons cette mauvaise attitude devant Dieu, confessons-la lui. Et expérimentons 1 Jean 1, 7 qui nous dit « Le sang de Jésus, son Fils, me purifie de tout péché. » Ou 1 Jean 1, 9 « Si je confesse mon péché, Dieu est fidèle et juste pour me purifier et pour me pardonner de ce péché, de cette iniquité. » Il est donc nécessaire de sonder nos vies, frères et sœurs, chers amis, à la lumière de la parole de Dieu, pour que la vie de la chair crucifiée à la croix ne se substitue plus à la vie du Saint-Esprit dans nos cœurs qui demeure éternellement, n'est-ce pas? Est-ce que nous voulons écouter le Saint-Esprit nous parler? Est-ce que nous voulons nous soumettre à lui pour que le Saint-Esprit agisse? Alors, prenons le temps de dire à Dieu merci pour son Esprit. Sans lui, sans l'Esprit du Seigneur dans nos cœurs, nous serions encore des brebis perdues. Mais le Seigneur nous a rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous ne pouvons donc plus faire ce que nous voulons, comme avant, mais nous laisser conduire par l'Esprit Saint. Oui, pour mon bien, le Saint-Esprit parle, alors je veux l'écouter. Oui, pour mon bien, le Saint-Esprit agit, alors je veux me soumettre à lui pour le laisser agir en moi. Tel est le guide précieux que nous avons, mes amis, que je possède par grâce et qui m'accompagnera tous les jours de ma vie comme le Seigneur l'a promis. Matthieu 28, verset 20. Et voici, dit le Seigneur, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment ? Par le Saint-Esprit. Grâce à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, prions ensemble. Merci notre Dieu pour tant de tendresse envers nous, pour tant de patience envers nous. Alors que nous ne te cherchions pas, nous étions errants, dans ta grâce, tu es venu nous chercher. Et tu nous as convaincus de péché, de justice, de jugement par l'Esprit Saint qui nous a parlé à travers la parole de Dieu pour nous convaincre de cela, de notre état de pécheur, de notre besoin de Jésus-Christ. Et maintenant, tu fais davantage encore. Tu nous conduis dans la vérité, dans toute la vérité. Tu nous conduis à Jésus constamment. Tu veux nous modeler, tu veux nous transformer. Tu veux bouleverser nos vies pour qu'elles soient conformes à celles de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu, dans ta grâce, tu nous accompagnes dans nos parcours respectifs. Tu nous arrêtes lorsque nous faisons... Nous prenons un mauvais chemin. Tu nous montres quelle est ta volonté. Tu nous éclaires sur des sujets importants, sur des choix de vie. Mais Seigneur, je te prie que tu nous aides aussi à comprendre que tu attends de tes enfants qu'il y ait une attitude sainte, une attitude humble devant toi pour être en capacité d'écouter ce que tu veux pour chacun de nous, ce que tu veux dans ta volonté, dans ta sagesse, dans le fait que tu veux pour nous non seulement le bon, mais le meilleur. Donc merci notre Dieu pour l'Église, qui nous permet, lorsque nous sommes dans la communion fraternelle, également de croître dans la connaissance et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Fais cela dans les cœurs, celui qui ne te connaît pas ce matin, pour qu'il puisse te découvrir comme ce que tu es, le Dieu de Jésus-Christ qui sauve le pécheur perdu. Et pour nous, Seigneur, de comprendre toujours plus que si ta grâce est pour nous, si tu es pour nous, rien ne pourra être contre nous dans cette vie, quel que soit ce qui peut nous arriver. Nous te bénissons pour cela dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.